bah jusque-là, une chance sur deux. Hein.
Je vois. Des économies, beaucoup d'économies.
Ah, mais oui, bien sûr. Je viens de faire installer un carport solaire à Kenna. Et avec lui, je suis connecté pour faire des économies d'énergie.
Je vois.
Mais c'est tout vu, madame. C'est Akena. Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test?
Attendez.
Maman, t'as fait du poisson?
Test concluant, impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 paquets de Colin d'Alaska extra croustillant surgelé Findus, le troisième est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Il est 19h et vos enfants vous ont déjà demandé 11 fois « Quand est-ce qu'on mange ?» Entre ça, les devoirs, le bain et votre fils qui vous explique pourquoi les billes bleues, elles sont super rares, là, c'est pas votre meilleure soirée. Alors, vous commandez des pizzas pour toute la famille. En plus, devinez quoi ? Pour un plat acheté, vous avez un plat offert sur une sélection de restaurants. Tiens, c'est votre Deliveroo. Ah, là on est bien. Offre disponible près de chez vous selon les conditions des restaurants participants sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Europe 1, il est 20h pile.
Europe 1 Soir Weekend.
19h-21h, Stéphanie Demureux.
Deuxième heure d'Europe 1 Soir Weekend. Dans quelques instants, on parlera de ces dossiers chauds, et à commencer par le Groenland et les menaces de Donald Trump auxquelles tente de riposter l'Europe. On y reviendra avec notamment mon invité, le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN pour la transformation et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Mais en attendant, c'est le journal avec vous, Maëlle Laurent. Réunion d'urgence aujourd'hui à Bruxelles, justement.
Oui, au lendemain des menaces de Donald Trump, de nouveaux droits de douane appliqués à 8 pays européens opposés à l'annexion du Groenland, dont la France. Emmanuel Macron demande l'activation d'un mécanisme jamais utilisé par l'Union européenne contre les États-Unis. On vous explique dès le début de ce journal. Une marche pour la vie organisée aujourd'hui à Paris. Plusieurs milliers de manifestants opposés à l'avortement ainsi qu'à la future loi fin de vie. Son examen reprend mardi au Sénat. Europe 1 était au cœur de la manifestation. Et puis un grave accident de la route a eu la nuit dernière à Nanterre, près de Paris, sur fond de consommation de protoxyde d'azote. Un homme est décédé, un autre grièvement blessé. Le suspect a été interpellé aujourd'hui. On vous en parle également dans cette édition.
Et un bazooka anti-coercition. Et d'abord, pardonnez-moi, la tendance météo avec vous, ma chère Estelle Lafond.
On garde un œil attentif dans le sud avec cet épisode méditerranéen qui n'est pas terminé. Les 5 départements en vigilance orange le sont encore cette nuit. Je vous donne plus de détails après le journal.
Ah, on y compte bien, tout à l'heure.
Europe 1.
Et donc, mon cher Maël, un bazooka anti-coercition.
Et oui, c'est ainsi que certains appellent l'instrument qu'Emmanuel Macron propose d'activer au nom de l'Union européenne après les menaces de nouvelles guerres commerciales de Donald Trump sur le dossier du Groenland. Bonsoir Wilfried de Villers.
Bonsoir Maël, bonsoir à tous.
Cet instrument qui n'a donc jamais été activé encore par les 27, mais de quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, cet outil juridique, c'est l'arme la plus agressive dont dispose l'UE en cas de litige commercial, avec des mesures fortes pour répondre à tout pays qui utiliserait des armes commerciales pour faire pression sur l'Union européenne. En clair, s'il est activé, l'instrument anti-coercition permettrait de limiter les importations provenant d'un pays, de geler l'accès aux marchés publics européens et de bloquer certains investissements étrangers. Mise sur pied en 2023, l'utilisation de cette arme juridique a été envisagée une première fois dans le conflit commercial qui opposait à l'époque la Lituanie et la Chine, puis une seconde fois au printemps dernier, en 2025, comme une réponse aux droits de douane annoncés par Donald Trump. Mais les 27 ne l'avaient finalement pas activé. Un outil agressif, certes, mais pensé avant tout comme un instrument de dissuasion, d'où son mode de fonctionnement. S'il est activé par la France, par exemple, et après un vote des États membres, s'ouvre tout d'abord une phase de médiation pour tenter de convaincre le pays incriminé, dans ce cas les États-Unis, de cesser les mesures contestées comme les droits de douane. Et c'est uniquement si aucun accord n'est trouvé que l'UE pourra utiliser les mesures de riposte dont elle dispose.
Wilfried de Villers pour Europe 1, merci. Dans l'actualité également, plusieurs centaines de tracteurs se sont rendus aujourd'hui à Bruxelles pour protester contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Accord signé hier au Paraguay. Prochaine étape, les agriculteurs se retrouveront mardi devant le Parlement européen de Strasbourg. Ils devraient être près de 4000 pour faire pression et obtenir la saisine de la Cour de justice européenne. Une mobilisation qui réjouit notre ministre de l'Agriculture, opposé à cet accord en l'état au nom de la France, Annie Genevard, qui était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, ce matin, on l'écoute.
Je pense que c'est très important que les agriculteurs soient présents à Strasbourg dans quelques jours, parce qu'il s'agit de soutenir l'initiative de députés européens qui envisagent de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de cet accord avec les pays du Mercosur.
Vous les soutenez, vous, Madame la Ministre ? Vous pensez qu'il faut saisir la Cour de justice et retarder la ratification ?
Il y a une question qui se pose en droit. Il y a plusieurs sujets qui se posent en droit et sur lesquels la Cour de justice aurait matière à discuter.
La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, interrogée sur Europe 1 ce matin par Pierre Villeneuve, c'était dans le grand rendez-vous. Et puis autre mobilisation aujourd'hui, ils étaient plusieurs milliers cet après-midi à Paris, réunis dans le cadre de la Marche pour la vie, événement annuel organisé contre l'avortement, mobilisation contre l'euthanasie également cette année, à l'heure où les débats sur la fin de vie vont reprendre au Sénat. Jacques, 67 ans, habitué de cette marche, était présent. Il témoigne au micro Europe 1 de Caroline Baudry.
La vie, de manière générale, tout ça, en fait, c'est un enjeu qui est global. On voudrait que la balance soit nettement remise dans l'axe de ce qui nous va tous, c'est-à-dire les soins palliatifs, et non pas cette espèce de propension à faire abréger la vie, alors qu'il y a d'autres solutions qui sont tout à fait possibles. C'est pour ça qu'on est là.
Propos recueillis par Caroline Baudry pour Europe 1 au cœur de cette marche pour la vie. C'était aujourd'hui à Paris et toujours dans la capitale. Sachez qu'un appartement s'est effondré sur celui d'en dessous. Ça s'est passé au 5e étage d'un immeuble situé dans le 11e arrondissement. Le drame s'est produit hier soir aux environs de minuit, en plein milieu d'une soirée réunissant une soixantaine de convives. L'un d'eux est actuellement en urgence absolue. 14 autres sont actuellement en urgence relative.
Europe 1, 20h06, nouveau drame possiblement lié à la consommation de prototype d'azote.
Oui, ce gaz hilarant particulièrement dangereux. Cette fois, il s'agit d'un automobiliste qui est soupçonné d'avoir provoqué un accident mortel la nuit dernière à Nanterre, près de Paris. Il était donc sous l'emprise du gaz au moment de l'accident, une collision mortelle entre plusieurs véhicules, comme nous l'explique Axel Ronde, porte-parole du syndicat police CFTC.
Le conducteur a violemment percuté deux véhicules qui étaient à l'arrêt à un feu rouge, malheureusement causant la mort d'un conducteur et plusieurs blessés. Avec l'impact qu'il y a eu, le choc, le véhicule de la personne qui a été victime s'est embrasé. L'auteur aurait pris la fuite et a été rapidement identifié et interpellé. Il semblerait que cet individu avait consommé du protoxyde d'azote. Encore une fois, ce gaz est un fléau actuellement.
Axel Ronde, porte-parole du syndicat police CFTC. À Cannes, deux personnes interpellées après un refus d'obtempérer la nuit dernière. Une course-poursuite a eu lieu avec la BAC sur une quarantaine de kilomètres. Les deux passagers du véhicule ont ensuite tenté de fuir. Ils se sont jetés dans un fleuve, le Var, avant d'être appréhendés par les policiers. Et puis, cet autre refus d'obtempérer, cette fois à Lyon, c'était avant-hier. Ça s'est passé lors d'un rodéo urbain. Un policier a été blessé. Trois motards sont toujours activement recherchés. À l'étranger, en Iran, les écoles de Téhéran et d'autres villes fermées depuis une dizaine de jours ont rouvert ce dimanche. Les universités également. Une ONG affirme par ailleurs que certains services en ligne ont été rétablis dans le pays. De son côté, Donald Trump a qualifié aujourd'hui le guide suprême iranien d'homme malade qui devrait cesser de tuer des gens. Hier, l'ayatollah Khamenei lui avait imputé la responsabilité des morts de la contestation en Iran. Un mot de sport à présent avec ce nouveau succès tricolore en biathlon. Aujourd'hui, Lou Jean Monod a remporté la poursuite de Ripolding. C'est en Allemagne. La Française, leader de la Coupe du Monde de biathlon, conforte ainsi son avance en tête du classement général. Camille Beded, autour d'un tir parfait, terminelle à la troisième place. Et puis avant de retrouver la météo, on va vous parler d'un sujet de saison, notre mode de chauffage, une tendance à l'œuvre. Le fioul domestique est en net recul dans notre pays. Transition écologique oblige. Le nombre de foyers chauffés au fioul a été divisé par deux en 20 ans. Il ne concerne aujourd'hui plus qu'un foyer sur 10, mais certaines régions françaises font de la résistance et continuent à l'utiliser plus qu'ailleurs. Illustration en Alsace avec la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin.
Dans sa maison familiale presque centenaire au cœur de la campagne alsacienne, Juliette, 73 ans, se chauffe au fioul depuis toujours.
La grand-mère déjà, elle avait des poêles au fioul.
Et elle n'a pas l'intention de changer ses habitudes.
Mon fils m'a un peu poussé pour une pompe à chaleur, mais Vu le budget, je ne veux pas changer de chauffage.
Comme elle, 15% des ménages du Bas-Rhin, souvent en milieu rural, souvent des personnes âgées, jouent les irréductibles contre 9% au niveau national selon l'INSEE. Et le fioul a encore de l'avenir, assure Florian Schusger, responsable du fournisseur Alliance Énergie.
Dans le contexte actuel, économique, géopolitique, les personnes préfèrent garder leur chaudière fioul. Depuis juillet 2022, l'installation de chaudière 100% fioul est interdite. En revanche, le client peut installer une chaudière biofuel, 30% d'incorporation d'huile de colza, et on a une progression vers 2030 à 100% d'huile de colza.
Autre tendance qu'il constate chez les jeunes ménages, garder le fioul, mais ajouter en complément un poêle à bois ou à pellet. Erstein, Mélina Fachin, Europe 1.
Et merci à vous, Mélina Fachin.
Merci à vous, Maëlle. Tout à l'heure, 20h30 pour le journal permanent. D'ici là, la météo avec vous, ma chère Estelle Lafond. Est-ce qu'on va utiliser le fioul ou pas, Estelle, demain encore? En tout cas, ça n'en finira pas de pleuvoir dans le sud.
Non, Stéphanie, ce sera très marqué hein, sur la Corse, avec des sols complètement saturés, une limite pluie-neige fixée à 1700 mètres sur l'île de Beauté, et donc un fort risque d'avalanche. C'est perturbé toujours sur la zone Roussillon également, avec toujours ces débats. Bordement dans l'Hérault notamment, un vent qui souffle toujours et la possibilité d'éclatements orageux sur les côtes. De la neige est donc aussi tout naturellement attendue sur les Pyrénées. Dès 1500 mètres ailleurs, c'est déjà plus calme, hein, il reste quelques pluies autour de la Méditerranée, côté PACA et puis sur la façade ouest vers la Normandie, l'est de la Bretagne ou encore sur l'Aquitaine. Seul le Finistère profite d'un bref répit demain matin avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation dans l'après-midi. Sur la moitié est, ça reste sec, hein, mais le ciel ne sera pas découvert pour autant. Le ciel est léthé, voire même avec des brouillards hein, sur le nord-est côté Lyonnais et Val-de-Saône toute la journée. Côté température demain matin, eh bien, les gelées sont de retour. Hein, on a jusqu'à moins 3 degrés dans le Grand Est. Les températures, elles, sont positives mais tout à fait fraîches au niveau des Hauts-de-France et du Massif central, 1 à 4 degrés. Et on monte là plutôt entre 4 et 8 degrés de l'ouest au sud de la France.
Merci Estelle Lafond. Et j'accueille dans Europe 1 Soir Week-end mes débatteurs de la deuxième heure. Bonsoir Alexandre Malafaï, fondateur du think tank Sinopia.
Bonsoir Stéphanie Lemuru.
Bonsoir Jean-Michel Salvator, bonsoir, chroniqueur politique et communicant. Alors, pas mal de questions et de débats ce soir. Comment faire en sorte que l'Europe, et en l'occurrence la France, ne devienne pas les dindons de la farce dans un contexte où, vous l'avez remarqué, l'ordre mondial opère un changement radical. Emmanuel Macron montre les muscles sur les dossiers chauds comme le Groenland ou l'Ukraine sans en avoir forcément toujours les moyens. Notre pays est-il condamné à l'impuissance, comme pourrait le suggérer la signature hier du traité du Mercosur? Bonsoir, général Jean-Paul Palomé.
Bonsoir.
Vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN pour la transformation, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. J'imagine que vous observez avec énormément d'attention ce qui est en train de se produire, se dérouler sous nos yeux. On assiste, je le disais, à un changement clair et rapide, assez inédit, de l'ordre mondial. Globalement, quel est votre regard sur ces bouleversements, mon général ?
Il y a une accélération des choses. Alors, il y avait des prémices. Hein. On sentait que Les organisations internationales, on pense en premier lieu aux Nations Unies, étaient dévalorisées, démonétisées en quelque sorte, et qui plus est depuis l'agression russe contre l'Ukraine. Ça, c'était un premier élément. On a vu des tas de traités qui étaient là pour peut-être essayer de limiter justement les risques. Ça sortait de la guerre froide, foulé aux pieds, et on oublie en quelque sorte les leçons de cette après-guerre. C'est ça qui... Et puis, il y a des éléments factuels comme la technologie qui sert un peu d'égaliseur, qui donne aussi des chances à des pays aujourd'hui qui n'osaient peut-être pas se lancer dans des aventures pour reprendre des territoires. Il y a des tas de bonnes raisons aujourd'hui de se faire la guerre, entre guillemets. Mmh. On peut avoir peur qu'effectivement l'avenir s'écrive toujours un peu, si vous m'excusez cette expression, en lettres de sang. Et c'est ce qu'il faut éviter absolument.
L'avenir en lettres de sang, vous, en tant que militaire professionnel, grand observateur de ces questions, est-ce que vous pensez qu'une guerre serait probable? Parce que c'est vrai qu'on parle aux Français, on a peur. Il y a eu cette déclaration qu'on a beaucoup commentée, du général Fabien Mandon, évidemment. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Il faudrait être prêt à perdre des enfants, avait-il dit.
Il faut se préparer à faire la guerre dans tous les domaines. Et ça commence évidemment par une mobilisation de la société. Nous sommes des démocraties, nous sommes une démocratie. Et c'est ça, je pense, l'enjeu. Il faut qu'on poursuive sur cette voie qui est celle de la liberté, des valeurs, de nos valeurs, qu'on se batte pour nos valeurs, en respectant nos valeurs. Et ce n'est pas simple dans le monde complètement désorienté, dissymétrique, si je peux dire, qui existe aujourd'hui. Et c'est ça l'enjeu. Et pour ce faire, on a effectivement derrière nous quand même l'héritage, d'un côté évidemment de l'Alliance Atlantique, et on en reparlera sans doute.
Oui, bien sûr.
De l'autre côté, quand même d'une Union Européenne qui, sans être parfaite, a quand même garanti quelque part une prospérité commune autour de valeurs communes globalement. Et ça serait dommage de gâcher tout ça et de ne pas se souvenir de ce bel héritage qui n'est pas un acquis, qui est un héritage qu'il faut faire fructifier. Mais c'est ça qu'il faut faire comprendre aux Français, aux Européens, c'est qu'il y a un prix à payer, le prix de la liberté en quelque sorte.
Et oui, le prix de la liberté, je vous entendais parler de nos valeurs, certes, mais comment respecter nos valeurs d'Européens quand en face on a certains États qui, eux, ne respectent pas forcément l'état de droit ?
Si vous voulez, c'est évidemment, il y a un moment donné où ce sont les muscles, alors que ce soit des muscles guerriers ou des muscles économiques. Et là, dans le deuxième domaine, en tout cas, l'Europe a ce qu'il faut si elle reste solidaire. Et qu'elle arrive à solidariser avec elle d'autres pays, comme la Grande-Bretagne, qui, tout en étant sortie, s'est rapprochée quelque part ces derniers temps. On voit la coalition des volontaires pour l'Ukraine, on voit plutôt la réaction là, sur ce qui se passe au Groenland. On a la chance d'avoir la Grande-Bretagne qui est plutôt proche de nous, profitons-en. C'est des alliés qui sont précieux.
Oui, mais ce n'est pas beaucoup. Justement, vous parlez de la coalition des volontaires en Ukraine. Bon, bah, y a le président ukrainien, il y a Keir Starmer et il y a Emmanuel Macron, c'est tout.
Pas tout à fait, parce que...
Il n'y a pas les Italiens.
Les Allemands sont présents. Alors, ils sont en train de faire un effort considérable,
oui,
d'ailleurs.
Oui, de réarmement, bien sûr. Alors,
évidemment, la question est de savoir si ces efforts sont soutenus, et c'est un peu le débat, on a entendu les discours de notre président de la République. Je crois que la société française, enfin, les sondages, ils valent ce qu'ils veulent, mais est prête à entendre ce discours, non pas de guerre en tant que ça, mais de préparation à la guerre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est vrai, aujourd'hui, plus que jamais.
Justement, on va écouter Emmanuel Macron sur cette fameuse phrase, c'était lors des vœux aux armées.
Notre effort de défense va continuer, ici, comme dans les autres garnisons de France. Oui, il va continuer, parce que, comme je vous l'annonçais le 13 juillet dernier, l'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque.
Votre réaction, mon général ?
Mais j'y étais, ses voeux. Je crois que c'est assez. Ce discours est légitime. Et évidemment, la difficulté, c'est. Après, d'aller aux actes, parce que on sait que notre budget, malheureusement, d'abord, il n'est pas encore voté.
Non.
J'avais prédit qu'on passerait par une voie plus directe. Je suis satisfait de voir que c'est la voie qu'on va prendre, parce que sinon, là, c'était la cata. Enfin, dans de nombreux domaines, mais en particulier pour la défense. Parce que cette année...
Vous avez des informations que je n'ai pas. L'ordonnance au 49.3, c'est ça
Bon, moi, oui. J'ai dit 49.3, oui, mais oui. J'aurais pu dire... Mais peu importe. En tout cas... Le fait que le gouvernement ait fait voter une motion, en quelque sorte, soutenant la défense un peu avant la fin de l'année, c'était quand même un signe que c'était quand même un des enjeux, c'est pas le seul, bien entendu, un des enjeux critiques de la construction budgétaire qui prévoit cette année deux marches. Alors, ils ont appelé ça une surmarche, peu importe. Mais en tout cas, si on regarde bien l'augmentation par rapport au budget précédent, c'est quand même plus de 6 milliards. Alors, on n'est pas prêt de les avoir en caisse d'un côté et d'autre part de les avoir dépensés. Hein.
Oui.
Il y a toujours la magie de la gestion financière à laquelle j'étais lourdement confronté quand j'étais chef d'état-major et même avant. Je connais les tours de passe-passe qu'on peut faire. Mais enfin, le signe est là quand même. Et le président demande beaucoup, et en particulier à l'industrie. Là, il a été très ferme. L'industrie fait ce qu'elle peut. Encore faut-il qu'on lui passe des commandes. Il faut quand même être juste. Notre industrie, elle est très bonne, elle fonctionne. Voilà, il faut que les deux parties s'accordent sur des objectifs clairs, ambitieux, mais concrets.
Jean-Michel Svetter.
Oui, bonjour, je voudrais vous interroger sur le Groenland, parce que finalement on est en plein bras de fer entre Trump et les Européens. Comment vous pourriez qualifier notre relation avec les Américains, qui étaient jadis notre allié? Est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui un adversaire? On ne peut pas dire que c'est un ennemi, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un adversaire des Français et des Européens?
C'est un compétiteur.
Oui.
On est rentré dans un champ de compétition. Il est clair que Donald Trump, et on l'avait mesuré en 2016, n'a pas endossé en quelque sorte le rôle des États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans son référentiel, il faut le comprendre.
Il s'en est jamais caché, d'ailleurs.
Oui. Il n'en est pas sorti. Je pense qu'il était plutôt bien conseillé. Qu'en sera-t-il cette fois-ci?
Là, c'est évidemment la question qu'on a envie de vous poser, parce qu'entre le Groenland et l'OTAN, clairement choisi, il l'a dit.
Et c'est intéressant que notre participation, enfin, que nous montrions une solidarité avec le peuple du Groenland et avec les Danois, c'est le détachement de cadre qui est là, est là pour montrer, puis regarder un peu quelle est la situation aussi au Groenland, c'est intéressant. Mais c'est surtout le fait que on montre que ce sont des pays de l'OTAN là, qui sont, ils sont chez eux en quelque sorte au Groenland.
Oui.
Le Groenland est supporté et sécurisé par l'OTAN. Et d'ailleurs, les États-Unis ont toujours, on le sait, maintenant l'histoire du Groenland est connue de tout le monde, les États-Unis ont toujours été là. Particulier, en 1951, il y a eu ce fameux accord qui ouvrait à peu près aux Américains toutes les possibilités pour investir encore plus et toujours plus au Groenland. Donc, c'est une compétition qui se joue à l'échelle économique globale, je dirais. On est vraiment dans une approche globale.
Oui. Est-ce que Donald Trump a tort quand il dit qu'il s'agit d'une question impérative de sécurité? Parce que on sait qu'il y a en embuscade, évidemment, sur cette route-là, la Chine d'un côté, la Russie de l'autre. Est-ce que finalement, on n'aurait pas tendance à devoir lui faire confiance sur ce point, puisque, a priori, les États-Unis sont plutôt nos alliés?
Il est clair, et pour l'avoir vécu dans les années 2014, quand j'étais moi-même commandeur suprême de l'OTAN pour la préparation de l'avenir, que cette question du Grand Nord, on a eu beaucoup de mal à l'aborder. Moi, j'ai essayé de le faire parce que je pensais que c'était vraiment une question d'avenir. C'était 2014, ça fait un peu plus de 10 ans, avec des Canadiens, par exemple, et des Américains qui étaient déjà sacrément, pratiquement en confrontation sur ce sujet, hein, pour des raisons territoriales ou maritimes, plus exactement, une mer intérieure pour les autres, ils n'avaient pas la même perception. Les Russes qui étaient au milieu, ils avaient planté déjà un drapeau à moins de 4000 mètres sous la mer, d'ailleurs dans les eaux territoriales du Groenland, parenthèse. Donc oui, c'est un enjeu.
Il paraît que c'est un sacré bazar de sous-marins sous la glace, confirmez.
Mais,
un petit peu le périphérique aux heures de pointe.
Je ne sais pas s'ils sont limités à 50, mais ce qui est certain, c'est que si vraiment le problème de M. Trump vis-à-vis du Groenland, c'est la sécurité, il aurait tout intérêt à ce que, d'abord, à réinvestir un peu les structures militaires, enfin la base qui est là-bas, qui est une base spatiale, hein, qui sert quand même à la détection des missiles balistiques.
De 200 militaires environ là-bas.
Oui, à peu près. Mais, et puis à la surveillance aussi des satellites qui orbitent. Donc, il aurait intérêt à s'appuyer sur l'OTAN, puisque...
Ben c'est ça.
Donc, on voit bien que la dimension sécuritaire, ce n'est qu'un prétexte et qu'elle ne tient pas la route 30 secondes.
Oui. Oui, mais il
dit quand même qu'il veut un titre de propriété. Donc, en fait, il va en faire le 51e État des États-Unis. Est-ce que vous voyez, vous, les Américains et Donald Trump, décider d'envahir militairement, à courte échéance, le Groenland?
Je n'ai pas de boule de cristal. Alors, il ne faut pas non plus mélanger l'espoir et la stratégie, ça, je sais bien. Non, je ne peux pas m'y résoudre, si vous voulez. C'est plutôt ça. Mais peut-être que je suis trop rationnel. Je ne peux pas m'y résoudre. Je pense que tout ça se terminera par une forme de négociation, peut-être sur le long terme. Mmh. On sait ce que veut M. Trump, c'est tomber dans un lieu commun, de dire qu'il veut exploiter potentiellement tout ça. Bon, ça fait partie des grands deals. Est-ce qu'on l'acceptera, est-ce qu'on l'acceptera pas? Mais l'envahir, il n'aurait pas besoin. Il a une base sur place et il a quasiment les mains libres à quelque chose près pour pouvoir la développer. C'est Enfin, moi, je serais à sa place, j'aurais cette ambition, c'est comme ça que je ferais. Je dirais, bah, écoutez, on a un accord de défense, d'accord ? La défense, c'est global, j'investis, et puis progressivement, je prends...
Dans le micro, pardonnez-moi.
Oui, progressivement, je prends... pied sur cette île, qui est la plus grande île du monde, quand même. Je prends pied sur cette île, et puis je déploie mes forces, et progressivement...
Et quand vous voyez, Général Jean-Paul Paloméros, quand vous voyez les petits groupes d'Européens et la France en tête envoyer 15 soldats pour les Français, puis vous avez vu que les Allemands, ce matin, ça a été très peu commenté, ça a été très discret, ils sont rentrés à la maison, hein. Ils sont rentrés chez eux après la menace, alors on ne sait pas si c'est lié, mais on le suppose, après la menace de surtaxe des droits de douane. J'imagine qu'ils ont eu un peu la trouille. Ils se sont dit, tiens, 13 militaires contre avec l'industrie allemande qui commerce, bah oui. Mais bon, ça interroge sur notre capacité à effrayer quand même les Américains. Hein. Donc, ouais. Donc comment on peut riposter concrètement, mon général, parce que...
Moi, mon sentiment, c'est que ce geste qui n'était jamais que... le déploiement d'un mini-état-major pour un peu prendre la température, si je peux m'exprimer.
Et officiellement pour soutenir Donald Trump. L'OTAN.
Oui, pour soutenir
l'OTAN.
Groenland, comme je le disais tout à l'heure, quelque part, nous sommes chez nous. Oui. On a 32 pays dans l'OTAN, les pays de l'OTAN sont chez eux au Groenland. Et ce n'était pas des soldats, c'était, on voyait bien qu'on était dans le cadre de travail d'état-major, des cadres.
Pour envoyer des soldats.
Voilà.
Il aurait pu être intéressant. Si vraiment vous voulez envoyer des soldats là-bas, mais je parle sous votre contrôle, mon général, parce que vous savez beaucoup mieux que moi comment ça se passe, que nous tous ici réunis, comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on aurait pu, alors ça a été dit depuis, mais on aurait très bien pu prendre Donald Trump au mot. Oui. Parce qu'en fait, à la tribune de l'ONU, en septembre dernier, il a dit beaucoup de choses, il faut toujours écouter quand il parle quand même, parce que parfois c'est suivi des faits. Oui, et il a dit notamment, l'Union européenne, l'Europe, n'est plus maître de son destin. Et sur le principe, peut-être que vous aurez un avis différent, mais je suis assez d'accord, parce que d'ailleurs la plupart des pays européens ne peuvent pas se servir de leur armement sans l'accord des Américains, rien que sur ce point-là. Oui. On n'est pas vraiment maître de notre destin, et les Ukrainiens en font là de douloureuses expériences tous les jours aussi, parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec ce dont ils disposent. Voilà, donc ce message-là, on aurait pu le prendre au pied de la lettre pour dire aux Américains, bon, écoutez, vous avez raison, le Groenland est une zone vulnérable. En effet, on va faire un truc ensemble, on va se retrouver, on va monter une coalition militaire, on va co-gérer le Groenland ensemble. On aurait pu imaginer. Bon. Mais je reviens sur la question du destin. Aujourd'hui, très sincèrement, bon, j'entends ce que vous dites et vous avez raison, on a des atouts. Mais en fait, on ne sait pas les utiliser. Il n'y a pas de coalition européenne véritablement. On a un niveau de division qui est assez phénoménal parce que les Américains jouent très bien de ceci et de cela. Et puis parce qu'en fait, on a des visions alternatives de l'Europe selon les uns ou les autres. En plus, on ne s'entend pas sur nos valeurs, donc ça nous divise encore plus profondément. Parce qu'on met les valeurs au centre, peut-être mettre nos intérêts au centre, c'est aussi une autre forme de lecture. Moi, j'ai l'impression effectivement qu'il a raison. On n'est plus maître de notre destin, on se fait balloter par l'histoire.
Justement, oui, vous faites partie, je le sais, enfin, en tout cas, moi, ça fait des années, malheureusement, je commence à prendre de l'âge, mais que je milite pour cette fameuse autonomie stratégique. Je dois avouer qu'on n'était pas très nombreux il y a une quinzaine d'années, y compris quand j'étais dans l'OTAN. Je me dis, mais il ne peut pas y avoir de dissociation entre le rôle qu'ont les Européens au sein de l'Alliance Atlantique et la croissance et la prospérité de l'Europe. Il y a eu, c'est vrai, le fait que de nombreux pays ont vu leur prospérité au sein de l'Union européenne et leur défense, leur sécurité au sein de l'OTAN, sous le parapluie américain. Il faut le dire, et c'est très clair. Et aujourd'hui, dissocier les deux, c'est horriblement douloureux pour un certain nombre de pays. On parlait de l'Allemagne à l'instant, qui de plus anime une composante, fait partie de la composante nucléaire de l'OTAN, dont les armes sont fournies par les Américains. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai un éléphant dans la pièce, comme on dit. Donc, oui, bien sûr. Mais l'Europe a quand même des atouts, alors, est vrai, économiques. Et en tout cas, c'est le moment européen. Si les Européens, que ce soit dans le soutien...
C'est une opportunité, vous dites.
Je le crois, que ce soit dans le soutien à l'Ukraine, en élargissant cette coalition, ce qui, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que si on a avec nous la Norvège, ne serait pour ne citer que ces deux pays-là, la Grande-Bretagne et la Norvège, ça crée une dynamique. La Norvège, c'est un pays riche.
En général, la Russie, vous le savez mieux que moi, c'était la ligne rouge, justement, c'était l'une des raisons pour lesquelles la Russie a envahi l'Ukraine. C'était cette extension vers l'Est de l'OTAN.
Vous croyez vraiment à cette théorie ?
Sincèrement, je pense.
Moi, j'y crois absolument pas. Je peux vous dire que quand je suis arrivé à l'OTAN en 2012, c'était un sujet qui n'en était pas un. Et que, évidemment, le prétexte était très fort. est très très puissant pour Moscou, qui cherchait un prétexte pour ne pas laisser se développer à ses portes un pays démocratique et le vent de la liberté à ses frontières.
Mais donc c'est pour cette raison en général que l'Ukraine va rester une zone grise pendant des années et des années. Si on reprend votre propos, en aucun cas il peut y avoir la paix et finalement le développement d'une démocratie en Ukraine. Donc la Russie va maintenir l'Ukraine, cette zone, oui, en conflit pendant 10 ans, 15 ans, tant que Poutine vivant.
Bien sûr, mais tous ceux qui étaient au cœur du débat savaient que l'Ukraine ne pouvait pas adhérer à l'OTAN dans les circonstances et certainement pas sur le moyen terme. Et on n'y croit pas beaucoup plus aujourd'hui. On peut effectivement faire semblant. Il ne faut pas faire semblant dans ce qu'on fait, il faut être réaliste. Et c'est pour ça que je pense que cette coalition de volontaires, elle a au moins le mérite aujourd'hui de soutenir l'Ukraine. Et d'une manière fiable, avec les moyens qu'elle se donne. Pour l'instant, c'est elle qui donne le plus. Ça démontre, quand on veut, on peut encore, en Europe, on ne peut pas tout faire, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, on n'a pas atteint ce niveau d'autonomie stratégique qui aujourd'hui nous fait défaut.
Mais c'est une opportunité pour vous, on l'aura compris.
Ben, je pense.
Merci Général Jean-Paul Paloméros d'avoir été avec nous, ancien commandant suprême de l'OTAN, merci. Et s'il est 20h30 sur Europe 1, Maëlle Laurent nous a rejoint dans son studio pour le point sur l'actualité, Maëlle.
Un conseil des ministres se tiendra demain dans la journée. Objectif, choisir l'outil constitutionnel utilisé pour faire passer le budget 2026. Entre l'article 49.3 et l'ordonnance budgétaire, rien n'est exclu à ce stade. Précision ce soir donnée par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Un mort et plusieurs blessés dans un grave accident de la route la nuit dernière à Nanterre, près de Paris. Le jeune conducteur a pris la fuite avant d'être interpellé aujourd'hui. Il était sous protoxyde d'azote, du nom de ce gaz hilarant particulièrement dangereux. Une marche pour la vie organisée aujourd'hui à Paris. Plusieurs milliers de manifestants opposés à l'avortement ainsi qu'à la future loi fin de vie. L'examen de ce projet de loi reprend mardi au Sénat. Il est considéré comme un basculement civilisationnel selon la porte-parole de cette marche. Et puis autre manifestation aujourd'hui toujours à Paris, cette fois en soutien au peuple iranien. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans le 16e arrondissement de la capitale. Parmi elles, le président des Républicains Bruno Retailleau ou encore la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse. En Iran justement, les écoles de Téhéran et d'autres villes fermées depuis une dizaine de jours ont rouvert ce dimanche. Les universités également. Une ONG affirme que certains services internet ont par ailleurs été rétablis dans le pays. Sur l'île de la Réunion, le célèbre Python de la Fournaise est entré en éruption en fin d'après-midi, sans aucune menace pour la sécurité. Précision donnée par les scientifiques. Éruption sur le flanc nord de ce volcan qui est considéré comme l'un des plus actifs au monde, avec une vingtaine d'éruptions enregistrées sur les 10 dernières années. Et enfin, ils sont les bons élèves de la Champions Cup de rugby. L'Union Bordeaux-Bègles, déjà championne d'Europe en titre, en est à 20 points sur 20 possibles. Les joueurs de l'UBB qui ont encore battu les Anglais de Bristol 27-15, c'était cet après-midi, avec notamment 3 essais signés Louis Bielbiaret.
Merci Maëlle Laurent, on se retrouve à 20h45 pour un point sur l'actualité.
Europe 1 Soir Weekend.
19h-21h, Stéphanie Demure.
Toujours en compagnie de mes débatteurs de la deuxième heure, Alexandre Malafaye et Jean-Michel Salvatore. Pas mal de sujets ce soir, riches, mais je voulais qu'on s'arrête quand même quelques instants passionnants. Hein, le général Paloméros, une chance pour l'Europe, tout le monde aimerait le croire. Vous voyez cette situation comment, vous, Alexandre Malafaye? Je voudrais vous faire écouter Annie Genevard ce matin sur cette problématique de Groenland et ses menaces. Quand même, on ne s'y attendait pas forcément, de menaces de surtaxes sur les pays européens, notamment la France et l'Allemagne. Annie Genevard, elle, disait sur ce matin un de CNews européens, Les Échos, le grand rendez-vous, elle estime que Donald Trump aurait beaucoup à perdre. Écoutez-la.
Dans cette escalade des droits de douane, il a beaucoup à y perdre aussi, y compris ses propres agriculteurs, y compris ses propres industriels. Donc cette escalade peut être mortifère.
Mortifère pour l'économie.
Pour l'économie.
Et qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Concrètement, on ouvre la négociation et il faut y aller tout de même avec une certaine force. Il est clair qu'avec Donald Trump, ce n'est plus le droit, c'est la force.
Si je peux me permettre, la négociation, quel est l'objet de la négociation? Le transfert de souveraineté du Groenland vers les États-Unis? C'est ça l'objet de la négociation.
Oui. Pour lui, ça va être ça, la négociation.
L'objet de la négociation, c'est ça. Mais dans cette négociation-là, il est clair que les Européens ne laisseront pas faire les États-Unis.
C'est là tout le problème. C'est que pour vous, Madame Genevard, pour vous, c'est clair. Mais pour Donald Trump, il y a une chose qui est claire, c'est que lui peut faire l'inverse.
Oui, mais je crois là qu'il toucherait à quelque chose de gravissime. C'est pas tout à fait le Venezuela, quand même.
Votre réponse, Jean-Michel Salvatore?
Bah, écoutez, moi, j'ai quand même le sentiment que là, bon, on assiste à une escalade, mais je pense qu'on est plus à l'aise dans une escalade commerciale que dans une escalade militaire. Et je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que l'Europe est la première zone économique du monde.
Absolument.
Et que, évidemment, que les Américains ont quand même beaucoup d'intérêt à commercer avec nous. Et c'est vrai que tout ce qui pourrait les empêcher ou les entraver aurait évidemment des conséquences très importantes. Il ne faut pas oublier que, malgré tout, Donald Trump n'est pas si à l'aise que ça politiquement dans son pays, qu'il est de plus en plus contesté, que l'année prochaine...
Sur cette question.
Sur cette question et sur, d'une façon générale, ses interventions à l'étranger. Il faut bien voir qu'il aura des élections maintenant dans 9 mois, qu'il n'est pas sûr de les gagner. Donc je pense qu'il va quand même y regarder à deux fois. Et le fait d'ailleurs qu'il commence à dire, bon, si vous continuez à vous opposer à la mainmise américaine sur le Groenland, j'imposerai des droits de douane le 1er février, et puis si vous n'avez toujours pas compris, j'en imposerai des supplémentaires le 1er juin. Je trouve que c'est d'une certaine façon presque une marque de faiblesse.
Oui, enfin une faiblesse, et comme je le faisais remarquer au général, et encore une fois, la presse l'a peu dit, hein, c'était dans le journal allemand Le Bild ce matin, les Allemands, eux, ont canné, hein, ils sont partis. Alors bon, il est pas, l'histoire ne dit pas si c'est lié aux droits de douane, mais enfin on imagine bien Alexandre Malafaï.
Ce qui est sûr, c'est que les Européens, Allemands, Français en tête, on n'a pas compris le mode d'emploi avec Donald Trump. On est aveuglé par le débat sur les valeurs et on n'arrive pas à en sortir. On a une vision binaire, donc très manichéenne des choses. Et donc on ne trouve pas effectivement de lecture intelligente de ce que Donald Trump veut faire. Alors est-ce qu'il y a une lecture intelligente à avoir? Ça, c'est un débat qu'on peut poser, mais c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on le pose et on répond non, bien sûr, ce n'est pas intelligent. Il y a peut-être des messages à décrypter derrière tout ce que fait Donald Trump aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de comprendre. Ce qui est sûr, c'est que de mon point de vue, les Américains aujourd'hui veulent absolument rester les leaders du monde dit libre, entre guillemets, mais en tout cas d'un monde qui partage en idéal avec nous la liberté au cœur. Ça, c'est clair. Les Américains ont ça et ils veulent le défendre. Et pour le défendre, ils ont l'économie et leur système de défense. Et ça, c'est leur modèle, c'est vraiment la matrice de base. Et en fait, quand les Américains nous regardent, quand Donald Trump nous regarde, on a l'économie, oui, mais de manière très fragmentée, très désorganisée, très divisée. Et la défense, on n'y est pas. Même si on a des moyens, on est incapable de les utiliser correctement. Et donc, Donald Trump, il nous envoie un message, d'une certaine façon, aujourd'hui. Alors, c'est ce que disait le général. Il faut qu'on saisisse la balle au bon. Parce que dans le long terme, si à court terme, en tout cas, les Américains peuvent effectivement assurer une forme de leadership et grâce aux droits de douane, relancer leur économie, tout ça, c'est du court terme. Ça se paiera cher. Parce que le long terme ne devrait pas pouvoir passer sans qu'il y ait une alliance forte, malgré tout, au XXIe siècle, entre les Européens et les Américains. Et ça, pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. On est plutôt en train de chercher à se diviser et on est acteur de cette division. C'est-à-dire que les Américains nous envoient des messages qui nous amènent effectivement à être en confrontation avec eux et pas du tout en coopération, ou de moins en moins en coopération. Mmh. Et malheureusement, je crains qu'à plus long terme encore, tel que c'est parti, si on reste arc-bouté sur nos positions et notre débat sur les valeurs et le fait de ne pas vouloir voir que l'ordre mondial est totalement fragmenté, désorganisé, eh bien on va continuer à s'isoler et à s'affaiblir. Et en nous affaiblissant, ce que les Américains ne voient pas venir, c'est qu'on les affaiblira aussi.
Enfin, bon, isolé, comme le soulignait Jean-Michel Salvatore, il y a quand même 750 millions de consommateurs. 450, et on a quand même, oui, pardonnez-moi, on a quand même un petit peu quand même des atouts, évidemment, aussi en Europe, qu'on peut faire valoir.
Oui, alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron a sorti le bazooka. Il a parlé de cet instrument anti-coercition de l'Union européenne, mais ce n'est pas un instrument qu'on peut utiliser aussi facilement que cela. Il faut quand même qu'il y ait un accord européen. Il faut qu'il y ait une majorité qualifiée. Et là, on voit bien que les Européens ne sont pas tous d'accord. Ils ne sont pas tous d'accord. En fait, il y a 6 pays européens qui pourraient éventuellement se laisser tenter, plus le Royaume-Uni, plus d'autres pays. Bon, donc tout ça sera compliqué. Et d'ailleurs, c'est aussi le calcul de Donald Trump, qui finalement a un certain mépris pour l'Europe, notamment pour ces raisons-là, parce qu'il considère que non seulement nous ne défendrons pas nos valeurs, mais qu'en plus nous sommes totalement divisés, et évidemment qu'il peut compter là-dessus pour nous affaiblir, mais je pense qu'on est quand même au début de l'histoire, et malgré tout les Européens ont quand même dans leur carte pas mal d'atouts.
Alexandre, on avance après sur le budget, parce qu'on parlait de faiblesse, bon, on n'a pas de budget pour l'instant. Hein. Ça, j'aimerais quand même vous faire réagir deux minutes.
Oui. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que non seulement les Américains tiennent les Européens par le système d'armes, qui sont totalement dépendants dans leur usage.
Vous savez que le Danemark, par exemple, n'aurait pas le droit de... Non, mais ça ne va pas être le cas, évidemment, mais d'utiliser, par exemple, les F-35 contre les États-Unis. C'est totalement proscrit par les règles de l'OTAN.
Ils ne peuvent de toute façon même pas les utiliser sans avoir l'accord des États-Unis pour faire quoi que ce soit, même contre l'Ukraine, contre les Russes. russes, etc. Il faut l'accord américain. Et derrière, après, vous avez l'arme du dollar, vous avez la loi américaine, cette fameuse extraterritorialité, vous avez tout le monde du numérique qui est entre les mains des Américains, voilà, tout le monde de la finance, donc l'arme du dollar aussi. Donc aujourd'hui, on est vraiment très dépendant.
Mais regardez comment on est faible. Vous avez cité les GAFAM, etc., le numérique. On n'arrive pas à les imposer.
Alors je ne
connais pas,
pas
les détails de ce dossier.
Non, mais l'Europe est à blâmer au premier chef, parce que les Américains ont fait des dizaines de champions de première classe mondiale depuis les 40 dernières années. L'Europe n'a pas voulu de manière systémique en faire. C'est un choix politique. Pas de regroupement, pas de position dominante. Donc on empêche la fabrication de géants mondiaux. Alors aujourd'hui, on le paye.
Bah oui, puis on fait des normes au lieu de financer notamment l'innovation. Alors, je voulais avancer justement sur le budget. Apparemment, ça a beaucoup réfléchi ce week-end. Bon, il n'y a pas de fumée blanche. Hein. On ne sait pas s'il y aura un 49-3 ou une ordonnance. En tout cas, nouvelle copie favorable aux socialistes, à nouveau, hein, qui font la loi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. 1,75% à la dernière présidentielle, 69 députés, puis on décide de tout. Les LR, on ne les entend pas.
Ben c'est comme pour la Sécu, c'est-à-dire que sur le budget de l'État, on est en train de tout céder au Parti Socialiste, avec des mesures qui sont absolument aberrantes, parce qu'elles coûtent extrêmement cher. On a eu l'occasion d'en parler sur Europe depuis quelques jours. Hein, le maintien de la prime Rénov', la création de 2000 postes de profs dans l'éducation nationale, les repas à 1 euro pour les étudiants, la prime d'activité en augmentation pour 3 millions de Français. Tout ça, c'est très joli, mais tout ça, ça va coûter très cher. Et ce qui est absolument affolant, c'est que Sébastien Lecornu, bon, qui vient quand même des LR, bon, il n'est plus LR, mais qui vient des LR, qui est quand même un homme de droite, accepte de passer sous les fourches caudines du Parti Socialiste, parce que qui va payer tout ça ? Bah, ce sont les entreprises.
Et
très honnêtement, c'est une véritable catastrophe.
Et on apprend à l'instant justement que Sébastien Lecornu a écrit aux chefs d'entreprise pour leur expliquer que malheureusement, eh bien, ils n'avaient pas réussi à baisser, vous savez, cette fameuse CVAE. Hein,
CVAE, oui.
Bah oui. Donc l'impôt de production, eh bien, il n'a pas réussi. C'est pas étonnant, c'est dans la lignée de ce qu'on disait, c'était l'une des promesses pourtant, Alexandre Malafaye.
Promesse essentielle. Sur l'autel de l'économie et de la relance et de la volonté, en tout cas, de faire de l'appareil industriel une priorité, parce que là, pour le coup, ça frappe en plein les industriels. Vous avez cette surtaxe de 8 milliards sur les bénéfices des grandes entreprises qui va être également appliquée. C'est pas neutre, 8 milliards. Et ça, surtout, ça envoie un signal extrêmement négatif, parce que
il devait réfléchir ce week-end, c'est acté, ça,
une dépêche tout à l'heure du Monde disant que c'était en train de on verra. De toute façon, il va bien falloir qu'il trouve quand même, qui trouve l'argent pour financer les fameuses mesures dont parlait le budget d'assistanat, enfin de compromis, mais d'assistanat imposé par l'agenda de l'Assemblée avec les socialistes qui tiennent un peu le gros manche de la cognée. Mais surtout, ce qui est terrible, c'est que à la limite, on pourrait demander un effort aux patrons, on pourrait demander un effort aux entreprises, mais ce budget n'est assorti d'aucun engagement clair de réduction. Voilà, il n'y a pas d'effort.
C'est ça.
C'est sur ce point-là, pour le coup, c'est le flou total. Alors, on verra le budget qui sera présenté. Malgré tout, on peut imaginer que quelque chose sortira du chapeau, mais c'est pas mis en avant. Il n'y a que cette volonté de dire, il faut améliorer la situation des Français par-ci, des étudiants par-là, etc. Ça, on l'a bien compris. Aller chercher de l'argent dans la poche des entreprises, on l'a bien compris. Mais l'État qui se remet en question et qui essaye de tracer une feuille de route un peu plus raisonnable et responsable, ça, pour l'instant, on l'a pas compris. Ils en font pas une priorité, mais ils ne peuvent pas en faire une priorité. C'est le drame absolu de la période dans laquelle on est. Et donc, on va perdre un budget pour rien. Le seul élément qui va peut-être être sanctuarisé au détriment d'autres, c'est effectivement le budget de la défense, comme l'a dit le général Palomeros, avec 6,7 milliards de plus. Mais entre la promesse et l'exécution, et quand on voit aujourd'hui l'état de la difficulté dans laquelle sont les entreprises de la fameuse BITD, Base Industrielle de Technologie et de Défense, beaucoup sont en difficulté parce qu'elles n'ont pas les commandes de l'État, alors que Macron dit, c'est bien, il faut que vous produisiez, mais avec quel argent? Et en plus, on est dans un pays où il y a tellement de règles, y compris sur l'export, qu'en fait, on ne peut pas trouver de source de développement qu'on pourrait avoir si les choses étaient davantage facilitées. Donc, on n'est vraiment pas très bon.
Et à côté de ça, le pouvoir d'achat des Français, on n'en parle pas. À partir d'aujourd'hui, tous les 18 du mois, Jean-Michel Salvatore, je vois que vous voulez intervenir, mais presque un Français sur quatre déclare être à découvert à partir donc du 18 aujourd'hui, chaque mois. Donc 24% des Français quand même, c'est pas rien.
Oui, mais tout ça est lié, si tu veux. C'est que quand vous écoutez Olivier Faure disait, sur toutes les mesures du budget, nous on acceptera toutes les mesures qui ne sont pas sur le dos des Français. Ouais. Mais excusez-moi, mais si vous surtaxez les entreprises, évidemment que
les Français finiront
par le payer, parce qu'il y aura moins d'emplois, il y aura moins de compétitivité, etc. etc.
Donc, c'est déjà de hausse de chômage en juin. Ils ont
bien sûr, donc c'est une folie, c'est un chantage, et c'est une inconséquence incroyable. Et le jour où le pays sera en faillite, je pense qu'il faudra retourner voir M. Olivier Faure en lui disant « mais c'est de votre faute et les budgets pour 2026 portent la marque à la fois de ce chantage et de cette faiblesse et de cette inconséquence ». Alors ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'à partir du moment où vous faites voter des lois de facilité, où il n'est jamais question de faire un effort, où tout est financé par la dette, où on fait les 35 heures, où on accorde la retraite à 60 ans.
Bon, là, vous l'avez entendu, il y tient.
Oui, mais attendez, mais moi je reviens.
À 5%, mais enfin, je ne sais pas comment, avec ce budget, il va y arriver.
Je reviens à votre pouvoir d'achat. Évidemment, oui, que si on ne travaille pas plus, évidemment qu'on assiste à un appauvrissement général des Français. En économie, il n'y a pas
taux d'emploi en Allemagne, 77%, en France, 68%.
Tout est dit. Absolument. Mais tout ça, en fait, inscrit la France dans un cercle qui est extrêmement vicieux. Et pour rebondir sur un débat qu'on avait il y a quelques jours, quand vous voyez le taux de dénatalité, le fait qu'il y a plus, on fait plus assez d'enfants, mais ça raconte la même histoire sur une autre partition. C'est-à-dire que quand vous avez un quart des Français qui vous coupent leur fin de mois, comment avez-vous envie de prendre le risque de faire un enfant, d'en faire deux, d'en faire trois, quand vous avez la guerre à nos portes, quand vous avez toutes les difficultés qu'on a au quotidien, quand vous avez un avenir qui n'est que sombre et qu'on voit qu'a priori demain sera moins bien qu'aujourd'hui, comment avez-vous envie de vous projeter déjà avec des retraites qui n'existeront pas, parce que soi-disant les retraites, on va avoir de plus en plus de mal à les fabriquer et à les financer, comment voulez-vous vous projeter en disant je vais faire plein d'enfants, ça va être génial l'avenir? C'est plus compliqué.
Messieurs, on poursuit nos débats dans quelques instants. Vous aurez le droit de mourir, cela dit, puisque...
Merci
pour cette...
C'est proposé si gentiment.
C'était un petit peu violent, je vous m'en excuse. En plus, c'est pas rigolo. La loi sur la fin de vie arrive devant le Sénat. On en débattra dans quelques instants avec vous, Jean-Michel Salvador et Alexandre Malafaye. En attendant, 20h46 sur Europe 1, le journal permanent avec vous, Maëlle Laurent.
Emmanuel Macron demande l'activation d'un mécanisme de protection contre les États-Unis, un instrument jamais utilisé par l'Union européenne. Réaction au nouveau droit de douane voulu par Donald Trump pour 8 pays, dont la France, opposée à l'annexion du Groenland. Une réunion d'urgence a eu lieu à Bruxelles aujourd'hui en ce sens. Le chef de l'État qui présidera demain dans la journée un conseil des ministres avec cet objectif, choisir l'outil constitutionnel utilisé pour faire passer le budget 2026. Entre l'article 49.3 et l'ordonnance budgétaire, rien n'est exclu à ce stade, selon Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement. À Paris, des décisions conséquentes attendues au musée du Louvre sur la direction de l'établissement notamment. Annonce faite aujourd'hui par la ministre de la Culture. Un mouvement de grève est en cours au musée du Louvre depuis un mois. Les personnels qui demandent de meilleures conditions de travail. Rachida Dati, également candidate à la mairie de Paris, elle a confirmé aujourd'hui qu'elle quittera le gouvernement avant les municipales, mais aucune date n'a été spécifiée. À l'étranger, des discussions substantielles avec les États-Unis, c'est ainsi que Kiev juge ce soir les nouveaux pourparlers qui ont lieu en Floride entre négociateurs ukrainiens et américains. Des avancées qui porteraient notamment sur les garanties de sécurité et la relance économique de l'Ukraine. En sport, nouveau succès tricolore en biathlon aujourd'hui. Lou Jean Monod a remporté la poursuite de Ruppolding, c'est en Allemagne. La Française, leader de la Coupe du Monde de biathlon, conforte son avance en tête du classement. Bonne performance également pour Camille Bened qui a signé un tir parfait et termine, elle, à la 3e place. Et puis un mot de météo, l'Aveyron n'est plus désormais concerné par la vigilance pluie, inondation ou crue. 4 départements restent ce soir en orange, l'Hérault, l'Aude et les 2 départements corses. Les Pyrénées-Orientales se rajoutent à cette liste pour la journée de lundi.
Merci Maëlle Laurent, on se retrouve à 21h pour votre journal et un point sur l'actualité.
Europe 1 Soir Weekend, 19h-21h, Stéphanie Demuru.
Toujours en compagnie d'Alexandre Malafaye et Jean-Michel Salvator. Je vous le disais, la loi sur la fin de vie doit arriver devant le Sénat mardi. Alors vous avez le volet soins palliatifs, l'autre pudiquement appelé le droit à l'aide à mourir, autrement dit l'euthanasie. Bonsoir docteur Olivier Maillet.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Comment accueillez-vous la poursuite du parcours parlementaire de cette loi qui va certainement finir par être adoptée par l'ensemble du Parlement ?
Alors, vous parlez de la deuxième loi, là, c'est ça ?
L'ensemble de la loi, la loi de fin de vie, qui, avec les deux volets, soins palliatifs et le droit à l'aide à mourir.
Il y a deux lois différentes. Il y en a une qui vise à renforcer le développement des soins palliatifs. Et il y en a une qui vise à légaliser ce qu'on appelle le suicide assisté et l'euthanasie. ces deux lois-là qui ont été séparées il y a plusieurs mois déjà. Donc, vous me posez la question par rapport à laquelle ?
Écoutez, de voir déjà ce droit à l'aide à mourir, vous, en tant que professionnel des soins palliatifs, comment vous regardez ce droit à l'euthanasie désormais va certainement être adopté hein,
Alors, là, il y a le texte qui va être proposé au
Sénat.
Au vote du Sénat. Là, nous, je dirais qu'on est inquiet. On est inquiet d'abord pour les patients, puisque dans l'état actuel du système de santé, il n'y a pas seulement un défaut d'accès aux soins palliatifs, mais il y a un défaut d'accès aux soins tout court. Et on a très peur que cette mise à disposition de la mort administrée soit un choix par défaut pour beaucoup de nos concitoyens. Ensuite, on est inquiet pour les soignants qui s'occupent des patients gravement malades et dont le métier est de soulager et d'accompagner, et dont ce changement de paradigme, disons, ce changement de cadre va venir bousculer le sens de leur métier qui est déjà très mis à mal, comme vous le savez, ces temps-ci. Et enfin, on est inquiet pour la société, parce que cette loi va amener à se poser la question, toutes les personnes fragiles, toutes les personnes très âgées, handicapées, gravement malades, de se demander est-ce que ça vaut encore le coup de continuer, est-ce que j'ai encore une place dans ce monde. Et vous savez, dans le boulot qu'on fait avec les personnes gravement malades, l'immense majorité des personnes qu'on croise sont traversées par cette question-là, par l'idée que peut-être ce serait mieux que ça s'arrête.
Oui.
Et ces pensées ne s'éloignent que si le collectif et donc la société dans laquelle qui les entoure continue de les regarder, de les considérer comme ayant une valeur et une place dans le groupe humain dans lequel ils vivent. Donc c'est pour ça qu'on est inquiet, on va dire, sur trois plans différents.
C'est très important ce que vous nous dites, Olivier Maillet, parce que c'est un sujet éminemment difficile et on peut légitimement se dire chaque citoyen a le droit finalement de mourir s'il estime souffrir de trop, mais c'est ça le point, et c'est pour ça que je voulais vous inviter. Quand vous êtes-vous au contact de ces personnes qui souffrent, quand elles sont accompagnées et bien accompagnées, avec d'ailleurs les outils qui existent déjà avec la loi Leonetti, la sédation notamment, ces personnes-là, vous dites, le désir de mourir s'éloigne.
Oui, dans l'immense, on va dire, majorité des cas, enfin pour la plupart des patients, ce souhait que ça s'arrête, le souhait de hâter leur mort, hein, parfois, quand ils sont pris en charge et accompagnés, et je vous le dis, non seulement du point de vue des soignants, mais aussi des bénévoles, et puis aussi quand leurs proches aussi sont accompagnés, ce souhait de hâter la mort, il a une très nette tendance à soit disparaître, soit à s'éloigner, soit à s'éloigner, revenir, puis se rééloigner.
Sauf que la moitié des départements ne possèdent pas d'unité de soins palliatifs.
Pas la moitié, mais enfin un grand nombre. C'est vrai que l'accès aux soins palliatifs n'est pas uniforme sur le territoire. Mais encore une fois, l'accès aux soins palliatifs, c'est une chose. Mais l'accès aux soins est quelque chose qui est encore plus fort. Enfin, je pense que vous savez qu'il faut plusieurs semaines pour avoir un scanner, plusieurs mois pour voir un spécialiste. C'est très difficile de voir un médecin généraliste pour une otite pour votre enfant. Par contre, pour avoir accès à une euthanasie ou une prescription pour un suicide assisté, la loi prévoirait de le faire dans des délais extrêmement courts. Et donc, pour nous, ça nous paraît complètement décalé par rapport aux réalités de terrain que vivent les soignants actuellement.
Merci docteur Olivier Maillet. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Alexandre Malafaï, vous souhaitiez réagir. Ce que vient de dire le docteur Olivier Maillet, c'est édifiant. Effectivement, c'est sur le terrain, on se rend compte que ce désir de mourir s'éloigne quand on est accompagné. C'est le moment fort de ces paroles.
Ce qui est redoutable dans ce qu'il dit, en fait, et c'est un point sur lequel on doit tous s'interroger, c'est qu'en effet, la situation, quand elle est désespérée, dramatique, à un moment donné, peut-être qu'effectivement, on peut avoir vraiment envie que ça s'arrête, mais et qu'on puisse créer le cadre qu'il faut, ou éviter que le conjoint qui donne la mort se retrouve aux assises, ça peut être utile malgré tout, donc ça, il ne faut quand même pas l'écarter complètement, mais quand même, le choix par défaut, Alors, je peux pas être pris en charge correctement, donc je choisis la mort.
C'est ça.
Ça, c'est un point qui m'a vraiment interpellé dans ce qu'il a dit. Il y a un deuxième point auquel on pense pas toujours. C'est en effet la pression que ça met sur les soignants qui sont concernés directement. Et là, j'ai un point d'observation comparatif qui est intéressant. Et j'avais été attiré par cette information avec mon vétérinaire. On parlait un jour avec mon vétérinaire qui s'occupe de notre chat. Voilà. Et de ce problème du rapport à la mort. Et chez les vétérinaires, c'est une très grosse pression. Parce que l'euthanasie, la pratique d'euthanasie des animaux domestiques, est très fréquente, malheureusement, pour toutes sortes de raisons liées à un moment donné au fait qu'un chat, un chien, un cheval, une vache a des difficultés, et donc il faut passer par la phase euthanasique. Eh bien, ça a quel corollaire ? Ça a le corollaire qu'en fait, vous avez, et ça c'est tracé, hein, vous avez un taux de suicide plus important, de deux fois plus important chez les vétérinaires que chez les personnels de santé humaine. Voilà. Donc, ils sont confrontés à la mort et ça met une pression très forte. Et donc, en tout cas, c'est l'analyse qu'il en faisait. Et en tout cas, c'est les chiffres qui sont sortis. Donc, voilà. Le taux de suicide est deux fois plus élevé parce que vous êtes confrontés à la mort. Et forcément, c'est une pression considérable à porter au quotidien. Même s'il s'agit d'animaux, c'est un acte redoutable d'injecter la mort.
On parle toujours de celui qui souhaite mourir, mais ceux qui restent, donner vous imaginez, mort, c'est ceux qui restent et ceux qui la donnent. En effet, Jean-Michel Savatin.
Moi, ce que je trouve en fait très choquant là-dedans, c'est que finalement, on a le sentiment, quand on écoute les. Tous ceux qui savent, notamment Jean Leonetti, qui est à la fois qui est médecin et qui a fait voter deux lois sur le sujet. Jean Leonetti vous explique que cette loi, ça sera sans doute la loi la plus permissive du monde. C'est-à-dire que c'est avec cette loi qu'on pourra le plus facilement demander une mort assistée. Il y a des précédents comme la loi québécoise qui était très permissive également. Canada. Et les chiffres montrent qu'au bout de 10 ans d'application de cette loi, 8% des décès sont aujourd'hui des suicides assistés. 8%, c'est absolument considérable. Non. Et moi, dans la loi, il y a une chose que je trouve particulièrement choquante, c'est le délit d'entrave. Le délit d'entrave, c'est quelque chose qui frappe pénalement tous ceux qui tenterait de dissuader quelqu'un de recourir.
Mais la France adore.
Vous vous rendez compte ? Vous avez quelqu'un qui veut se suicider, vous essayez de parler avec lui, etc. Bon, c'est toujours compliqué. Moi, dans un studio de radio, on ne peut pas décider de choses comme ça. Mais je trouve que cette idée de délit d'entrave est une idée absolument monstrueuse. Et moi, d'une façon plus générale, je trouve que cette loi, on a vraiment l'impression d'un passage en force. On a vraiment l'impression qu'il y a une volonté idéologique de profiter en fait de la confusion politique et institutionnelle pour imposer ce basculement anthropologique.
C'est le sens aussi de la tribune magnifiquement écrite, bon, c'est pas étonnant, par Michel Houellebecq, accompagné d'Emmanuel Hirsch et Laurent Frémont dans le JDD ce matin. Il explique que ce qui frappe enfin en ce moment historique, c'est le silence éthique. Il précise une société qui commence à organiser la mort de ses membres les plus vulnérables cesse peu à peu de croire à la valeur intrinsèque de la vie humaine.
C'est ce qui restera parmi le bilan d'Emmanuel Macron, il restera ça d'avoir fait la loi qui donne le droit à la mort. Il aura ça aussi sur la conscience, si je puis dire.
Ouais. Plus léger, messieurs, je voulais vous faire terminer sur une information qui a attiré mon attention. Je voulais vous la faire commenter. Alors, une tendance, finit par un sourire, de plus en plus fréquente, révélée dans Le Parisien hier, chez les jeunes actifs. Alors, certains ont été surpris de recevoir une notification d'une application qui s'appelle TreeCount pour participer aux frais du repas. Alors bon, quand c'est prévu avant, ça va, en amont, chacun fait ce qu'il veut, après tout. Mais alors, parfois, vous recevez, d'ailleurs, c'est le cas de Lou Pineda, notre programmatrice, qui a participé à un dîner, qui s'est retrouvé avec une petite notification d'addition. Non, c'est incroyable, Jean-Michel Salvator.
Bah oui, mais ça renvoie peut-être au débat précédent sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que je pense que surtout les jeunes aiment beaucoup se recevoir, et c'est bien normal. On pas toujours les moyens d'aller au restaurant, donc finalement, ils s'invitent les uns les autres chez eux, et puis comme tout est cher, et notamment l'alcool, et c'est vrai que les jeunes consomment souvent pas mal d'alcool, on partage, c'est un signe des temps.
Bienvenue dans le monde moderne avec des applications qui font tout et parfois n'importe quoi.
Dans l'article d'ailleurs, il y avait des gens qui se plaignaient parce qu'ils apportaient un bouquet de fleurs et en plus ils devaient payer le repas, donc ils se retrouvaient avec une addition.
La douloureuse.
Voilà. Merci messieurs, merci Jean-Michel Salvatore. Bon, on ne fera pas payer l'addition Alexandra Malafaye. Merci
le
à vous.
Le verre d'eau est offert.
Oh bah oui, ça va toujours sur Europe 1, bien sûr. Un petit mot sur la météo avec vous, Estelle Lafond. La journée de demain s'annonce bien perturbée dans le sud.
Peu de changements en effet, oui Stéphanie. L'épisode méditerranéen se poursuit. La Corse sera toujours sous une pluie assez continue demain toute la journée avec de la neige dès 1700 mètres accompagnée du coup d'un fort risque d'avalanche. Les pluies sont aussi toujours marquées dans le sud-est. Elles continuent cette nuit et demain. La vigilance orange n'est pas levée. On fait surtout attention sur les routes avec les crues. Ça déborde sur de nombreux axes dans l'Aude, sur l'Hérault également. Côté Pyrénées, toute cette pluie devient neige dès 1500 mètres. On s'attend à des bonnes quantités de flocons, surtout sur l'est de la chaîne. On retrouve aussi de la neige au niveau des Alpes, hein, dès 1100 mètres d'altitude sur le Mercantour. Et puis en remontant sur une bonne moitié est, le ciel sera laiteux demain toute la journée, mais sans pluie. Sur l'autre moitié de la carte, les nuages ne laissent pas passer le soleil, sauf peut-être un petit peu demain matin sur le Finistère, avec des nuages qui sont source de pluie, mais beaucoup plus anecdotiques. Hein, ça concerne l'est de la Bretagne, la Normandie et un petit peu l'Aquitaine. Côté température, sur le nord-est, elles descendent jusqu'à moins 3 degrés.